Alors Bernard de Montréal, la première question, nous définir ce qu'est le bonheur.
Le bonheur, c'est quelque chose que l'homme de la cinquième race, que l'homme inconscient recherche. C'est un état d'esprit qui est à la fois émotionnel et mental. Il y a toujours de l'émotion dans le bonheur, c'est pas seulement une mentalité. Et c'est une qualité de la conscience intérieure de l'homme. C'est le plus haut niveau de sa recherche dans la vie. Et c'est une condition psychologique subjective, positive, bien en vue. Et c'est une limitation de la conscience humaine. Limitation dans ce sens que lorsque l'homme entre dans une autre conscience, dans un autre niveau de conscience, dans une conscience supra, une conscience où l'émotion n'affecte pas le mental, le bonheur n'existe pas en soi, dans ce sens qu'il n'y a pas d'émotion dans l'esprit. N'ayant pas d'émotion dans l'esprit, l'homme, au lieu de vivre le bonheur psychologique de la cinquième race racine ou de la cinquième sous-race, vit un état d'esprit global qui convient de la réalité de son esprit et de la réalité de la vie. Et ce qu'on appellerait le bonheur pour l'homme de la cinquième race devient pour l'homme de la sixième un état vibratoire qui lui permet d'être parfaitement bien dans sa peau, c'est-à-dire de ne pas souffrir sur le plan mental, sur le plan émotionnel, sur le plan vital, sur le plan physique, et être en communication avec l'éther. Donc le bonheur c'est une phase d'évolution comme l'intellect est une phase d'évolution. Le bonheur fait partie du plus bel aspect de la vie de l'homme inconscient, comme l'intellect fait partie du plus bel aspect mental de l'homme inconscient. Et lorsque l'homme passera à une autre phase d'évolution, l'homme n'aura pas besoin de rechercher le bonheur. Il sera intégré dans sa conscience, c'est-à-dire que sa personnalité, sa personne et son double seront un. Donc, il n'y aura plus besoin psychologique chez lui de chercher quelque chose pour balancer ses vibrations.
Le thème de la soirée étant l'illusion du bonheur, ça semble être deux illusions finalement. Est-ce que deux négatifs font un positif? Que de croire à un bonheur impossible, c'est une illusion, on est dans la réalité?
Non. L'illusion, ce que les poètes ont toujours mentionné aussi, l'illusion du bonheur relève du fait que l'homme inconscient vit dans la polarité de sa conscience. Sa conscience est polarisée entre le bien, le mal, le beau, le laid, le bon, le pas bon. Et comme sa conscience est polarisée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas parfaitement intégrée à un autre niveau, son mental et son émotion servent constamment à le faire passer d'un état à un autre. Donc le bonheur chez l'homme est une illusion dans ce sens qu'il n'est pas permanent, et il n'est pas permanent parce qu'il n'est pas réel. S'il était réel, autrement dit, si cet état d'esprit était réel, elle serait permanente. Et si elle était permanente, elle procéderait d'une sorte d'infinité de conscience. Cette infinité de conscience étant le lien vibratoire entre la conscience supramentale de l'homme ou le double et son ego. Donc, le bonheur, c'est une illusion dans ce sens qu'il n'est pas permanent. C'est psychologiquement valable dans le sens que ça permet à l'homme d'être heureux sur la terre, autrement dit d'être bien psychologiquement ou émotivement. C'est une illusion saine parce que ça lui permet de vibrer positivement vis-à-vis l'homme ou vis-à-vis la vie. De l'autre côté, à cause de la polarité, il y a le malheur aussi qui s'y rattache. Donc, dans le bonheur, il y a le malheur. Et le malheur, ça fait partie de la conscience expérimentale de l'homme, ça fait partie de la mémoire de l'âme de l'homme, et l'homme est obligé de vivre le bonheur et le malheur jusqu'à temps qu'il ait éteint complètement le désir subjectif de son ego. Et à ce moment-là, il n'y a plus besoin de bonheur sur le plan matériel, il a besoin simplement d'être parfaitement harmonisé avec ses principes subtils, autrement dit, il doit être dans une intégration totale de l'invisible, de sa matière invisible, avec sa matière matérielle. À ce moment-là, le bonheur n'existe plus, il y a simplement un état d'esprit parfaitement équilibré. Et c'est la conscience nouvelle de l'homme, c'est une joie de vivre qui est constante, qui est permanente et qui ne se ternit pas et qui ne peut pas être influencée par les événements extérieurs, même la mort.
Mais il est curieux de parler de bonheur à notre époque alors qu'on est dans la fin du stade de l'involution, puisque nous sommes à une époque où on court le bonheur par tous les moyens inimaginables, alors qu'il y a quelques siècles, on se faisait dire comment être heureux. Aujourd'hui, on recherche le bonheur par une multitude de moyens.
Oui. Selon les sociétés, selon l'évolution des sociétés ou la complexification des sociétés. Par exemple, un homme qui vit dans une société rurale, une société agricole, une société plus simple, peut avoir accès à un bonheur plus stable. Autrement dit, son bonheur sera plus stable. Mais un homme, aussitôt qu'il avance et qu'il vit dans une société complexe, telle que la société du 20e siècle, le bonheur n'est plus stable parce que la pression psychologique du corps de désir chez l'homme est trop grande et les affluents qui viennent vers lui sont trop nombreux. Donc l'homme est trop tenté et en étant tentant, il vit les expériences. En vivant les expériences, il échange constamment une position de vie pour une autre. On va prendre un exemple. Vous prenez un homme qui vit dans une société moderne comme la nôtre, qui a un bel automobile. Il va la conserver s'il fait un bon salaire pour 2 ans. Ensuite, il va changer. Tandis que l'homme qui vit dans une société rurale, son automobile, il va la conserver pour 20 ans. Et si un jour il y a un accident ou que cette automobile-là devient définitivement hors d'usage, il va la pleurer. Alors, le bonheur de l'homme, autrement dit l'état psychologique de l'homme, varie selon la culture. Et c'est ça le danger du bonheur. Le bonheur ne doit pas être fondé sur la culture ou sur la relativité de la culture. Il doit être fondé sur l'équilibre parfait entre les plans supérieurs de la conscience de l'homme, autrement dit le double, en relation avec l'ego, pour former un lien parfait qu'on appelle la personne. Une fois que l'homme découvre sa personne, automatiquement l'énergie en lui est en harmonie et il est constamment bien dans sa peau. Mais à ce moment-là, il ne recherche plus le bonheur, il est bien dans sa peau. Si vous regardez les mystiques ou les gens qui ont vécu des états de conscience très avancés, ces gens-là, dans leur état, quand ils revenaient sur le plan matériel, étaient très, 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 très calmes. Autrement dit, ils étaient dans une paix. La paix ne fait pas partie du bonheur. Il n'y a pas de paix dans le bonheur. Dans le bonheur, il y a simplement de la pulsation. C'est un maximum puis un minimum, un maximum puis un minimum, puis un maximum puis un minimum. Dans la paix, il n'y a pas de maximum puis de minimum. Dans la paix, c'est une continuité. C'est un continuum, c'est une relation entre l'intérieur et l'extérieur de l'homme. Et dans la société moderne, cette relation, elle est constamment fracturée parce que l'homme n'a pas d'identité. Le plus grand problème de l'homme vis-à-vis le bonheur, si vous voulez, c'est qu'il n'a pas d'identité. Parce qu'il vit au niveau de sa personnalité. L'homme ne réalise pas que sa personnalité humaine est simplement une coque. Si l'homme était capable de sortir de sa coque, il pourrait voir sa personne là, il pourrait être en esprit ici. Donc, pour que l'homme soit bien dans sa peau, autrement dit qu'il connaisse la paix, au lieu de rechercher le bonheur, il faut qu'il soit très intégré. Et le problème de l'homme moderne, c'est qu'il recherche le bonheur et il n'a pas la solution ou les clés nécessaires pour découvrir la paix.
Parlons donc de la paix.
La paix, c'est très différent du bonheur, parce que la paix, ça fait partie de l'esprit, tandis que le bonheur, ça fait partie de l'ego. La paix est à l'esprit, ce que le bonheur est à l'ego. Et l'esprit, c'est la partie ultime de l'homme, tandis que l'ego, c'est la partie inférieure planétaire de l'homme, c'est la partie expérimentale de l'homme, c'est la partie qui subit dans la vie les chocs de tous les jours, les hauts, les bas de tous les jours, tandis que l'esprit de l'homme est inviolable. Et si l'esprit de l'homme est réuni à l'ego, à travers la personne, s'il y a une connexion, à ce moment-là, l'ego, au lieu de chercher le bonheur, vivra la paix. On ne cherche pas la paix. Elle se construit. Mais on peut chercher le bonheur, et on ne le trouve pas. Je parle du bonheur permanent, naturellement.
L'extase.
L'extase, c'est une fonction psychique du corps astral qui permet à l'homme de se remémorer instantanément les plus beaux moments de sa conscience avant la mort. Un homme qui est dans l'extase fait expérience des plus beaux moments de sa conscience avant l'incarnation. L'extase, c'est le processus de réincarnation temporaire de la mémoire de l'homme quand il était mort. Être en extase, c'est être mort, mais avoir le plaisir de l'être. Mais comme le monde de la mort, c'est un monde qui est très différent du monde de la vie, parce que c'est un monde où les lois sont différentes, et d'abord, c'est un monde où le corps matériel n'existe pas. Donc, tous les paramètres de la conscience qui affligent le corps matériel, qui diminuent la conscience de l'homme par le corps astral, à travers la vision, tous ces paramètres-là n'existant pas, l'homme vit une conscience altérée, vit une conscience qu'il peut appeler même transcendante, mais c'est une conscience qui n'est pas fixe. Elle dure un certain moment et elle part. Et c'est une conscience qui permet à l'homme de sentir, de percevoir qu'il y a dans l'expérience antérieure de sa vie de très hauts moments et de bénéficier de ces moments-là dans la vie matérielle. Mais ce n'est pas une expérience qui lui permet de créer sur la terre. C'est une expérience qui lui permet simplement de se remémorer vibratoirement les hautes altitudes lumineuses de sa conscience astrale. Donc, dans le fond, ça sert.
Un livre qui vient d'être écrit qui dit qu'il y a 153 méthodes naturelles d'arriver à l'extase en dehors des drogues. Mais alors, parlez-nous de l'effet direct des drogues.
Bon, ce que les drogues font, l'effet des drogues, c'est que les drogues changent la vibration du corps astral. La drogue est une matière chimique. Toute matière a une conscience vibratoire, donc toute matière a une résonance. Et lorsque l'homme prend de la drogue, il crée un choc au corps astral, il y a une séparation du corps astral avec son ego, et il vit des états altérés. Et ces états altérés-là sont simplement des états psychologiques qui sont directement liés à sa mémoire. Quand un homme, comment vous appelez ça, vive des bad trips, des trips, alors quand vous vivez un bad trip, à ce moment-là, vous avez une connexion avec un aspect de basse vibration de la mémoire que vous appelez, vous, l'inconscient. Quand vous avez un bon trip, vous vivez l'opposé, des plans un peu plus élevés de ceci. Mais dans les anciennes écoles initiatiques, sous la surveillance des maîtres, souvent on employait des drogues pour accélérer le processus de dilatation des diaphragmes, mais aussi pour permettre que l'homme puisse avoir accès plus facilement à des échanges d'énergie entre le plan astral et son écho. Et ceci crée des états mystiques, ainsi de suite. Mais c'est pas avec ça qu'on construit des computers. Avec ça, on peut rester dans notre chambre. Mais on ne construit pas une civilisation. On ne peut pas faire descendre sur la Terre une science. On ne peut pas développer la capacité de voir dans l'invisible. L'homme ne peut pas avoir ses pouvoirs à travers ses actions. Parce que ce sont des actions qui relèvent de la mémoire, qui relèvent de l'ego, et qui n'ont de fonction que de spiritualiser. Parce qu'oubliez pas une chose, c'est que la drogue, à la fin des années 60-70, a aidé beaucoup à la spiritualisation de l'homme. Mais moi, quand je parle de spiritualisation, je ne parle pas de spiritualisation dans le sens que les gens l'emploient. Quand je parle de spiritualisation, je parle de définition de la conscience de l'homme en fonction d'un périmètre extérieur à sa conscience égoïque qui lui permet d'avoir l'impression d'être spirituel. Donc, ayant l'impression d'être spirituel, il change automatiquement au niveau de sa psychologie, donc il devient un peu plus humain. Et en devenant plus humain aussi, il perd la volonté. Donc, cette humanité-là, qui est une fausse humanité, n'est pas créative, donc elle ne sert pas à la société, donc elle ne sert pas à construire une science, elle ne sert pas à construire une civilisation. Ça fait partie des influences astrales sur la Terre.
Alors, si ce n'est pas le chemin pour créer des computers, réaliser des choses sur le plan concret, quel est donc ce chemin qui nous amène les deux pieds sur la Terre à construire des computers? Créer des choses pratiques.
Il y a aujourd'hui, au 20e siècle, il y a des hommes, d'ailleurs il y en a toujours eu, des hommes qui ont construit un institut. Nous sommes à la fin de l'évolution, et à la fin de l'évolution, nous remarquons que des hommes, de beaux esprits, ce que j'appelle de beaux esprits, construisent de belles choses, des architectes, des ingénieurs, des médecins, ainsi de suite. La seule chose que nous reprochons à la science aujourd'hui, c'est qu'elle n'est pas conscientisée. Si la science était conscientisée, ou lorsque la science sera conscientisée, au lieu que l'homme soit obligé de se servir de son intellect pour étudier la matière, il pourra entrer en contact direct avec sa propre énergie, qui est infinie, et il pourra connaître et comprendre instantanément la matière. Donc, il n'aura pas à étudier pour créer une science, et automatiquement, il sera dans le pouvoir de son énergie, et donc, il pourra créer, sur le plan matériel, une science qui convient au vrai visage de l'homme, c'est-à-dire au visage créateur de l'homme, au lieu du visage expérimentatif ou expérimenteur de l'homme, expérimental, si vous voulez, de l'homme. Un jour, il faut que la science cesse d'être expérimentale, parce que dans l'expérience de la science, il y a trop de dangers. Nous remarquons aujourd'hui que les conséquences de la science sont en train de polluer la planète. Ce n'est pas la science qui est le problème de l'homme, c'est la conscience de l'homme, son inconscience. Alors, aujourd'hui, à Mexico, dans la vallée de Teotihuacan, à Mexico, la vallée elle-même est l'endroit le plus pollué de la Terre, aujourd'hui. Les enfants naissent difformes, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que la conscience ou l'inconscience du gouvernement, des gens industriels, est tellement grande que on ne se sert pas bien de la science. Ce n'est pas la science qui est le problème, c'est l'attitude de l'homme vis-à-vis de la science. Donc, le problème de l'homme, c'est un problème de conscience. Et avec la génération qui vient, avec la fin du cycle qui vient, il y a une nouvelle conscience qui se manifeste sur le plan matériel. Et de cette nouvelle conscience viendra une nouvelle science. Mais cette science sera régie par la conscience interne de l'homme au lieu d'être régie par des paramètres ou des facteurs extérieurs à son ego.
Quel est donc ce chemin qui va nous amener à cette conscience sur la fin du cycle?
Ce n'est pas un chemin, c'est une voie. Il y a une différence entre un chemin et une voie. Un chemin, c'est quelque chose qu'on veut emprunter. Une voie, c'est quelque chose qu'on est obligé de vivre. Alors, il y a une voie. Et tous les hommes sur la Terre, qu'ils soient de n'importe quel pays, de n'importe quelle nation, ont une vibration. J'ai déjà dit que l'homme, son cerveau, c'est comme une radio. Donc, dans le cerveau de l'homme, il y a une vibration. Il y a des hommes sur la Terre aujourd'hui, dans différents pays, à différents niveaux de la société, qui ont une vibration. Et ceux qui ont cette vibration pourront éventuellement vivre la connexion avec ce que j'appelle le double, autrement dit la partie ultime d'eux-mêmes, parce que ça fait partie de la conscientisation de la nouvelle humanité qu'il se passe un rapprochement entre les parties supérieures de l'homme et les parties inférieures de l'homme. Ceux qui ont la vibration sentiront cette vibration. Automatiquement, il y aura ouverture en eux d'une certaine intelligence, et de là, graduellement, au cours des années, se fera une conscience plus grande. Et lorsque viendra le temps pour que l'homme, dans le monde, quand je dis l'homme dans le monde, je parle des nations, quand le temps sera venu pour que les nations puissent absorber le pouvoir lumineux de celui qui doit venir à la fin du cycle, à ce moment-là, il y aura une réorganisation de la matière humaine, il y aura une réorganisation de la science, il y aura une réorganisation dans tous les pays de la façon de vivre de l'homme. Mais à ce moment-là, le pouvoir de cet être sera absolu. Alors, pourquoi il y aura réorganisation? C'est parce que cet être qui viendra aura un pouvoir absolu. C'est-à-dire que les gouvernements, les hommes, les industries, le capital, tous les aspects de l'activité humaine ne pourront pas altérer son plan d'exécution.
Alors, d'ici cette époque, on doit s'asseoir, regarder le baseball à la télévision, parce que ça ne changera rien. De
toute façon, il y a des gens aujourd'hui qui s'assoient et qui regardent le baseball, puis il y a des gens qui ne s'assoient pas et qui font d'autres choses. On a de la difficulté à comprendre que les êtres humains sur la Terre vivent une conscience expérimentale, qu'ils ne vivent pas une conscience pleine. Et comme ils vivent une conscience expérimentale, ils n'ont pas conscience des mécanismes de leur conscience. De temps à autre, il se produit dans leur vie une perception quelconque. Ils peuvent voir une connexion entre les événements, mais en général, ils ne les voient pas. L'homme a été habitué pendant des siècles à chercher. Mais il n'a jamais compris que chercher faisait partie de sa conscience expérimentale. Les hommes dans le monde aujourd'hui, dans quelques pays qu'ils soient, qui sont prêts à passer d'un niveau d'évolution à un autre, sont prêts à passer d'un niveau d'évolution à un autre et ils ne peuvent pas passer à côté. Ils sont comptés. L'homme sur la Terre est un être programmé, c'est-à-dire que l'homme sur la terre possède une capacité plus ou moins élevée de répondre à cette énergie, d'une façon consciente. Ceux qui ont une très grande capacité de répondre à cette énergie d'une façon consciente travailleront en fonction, vivront en fonction de cette énergie, mais ne pourront pas laisser leur ego interférer avec cette énergie. C'est ça la différence entre l'homme de demain et l'homme d'aujourd'hui. L'homme d'aujourd'hui peut, à cause de son ego, faire interférence avec son énergie interne. L'homme qui vient, l'homme nouveau, le surhomme, l'homme supramental, appelez ça comme vous voulez, ne pourra pas faire interférence avec cette énergie parce qu'elle sera trop forte. Donc, au début, il aura l'impression d'être, presque robotisé par l'énergie. Il va avoir l'impression de perdre le contrôle de son libre arbitre, mais cette impression de perdre le contrôle de son libre arbitre, ça fait partie de l'illusion de l'ego qui souffre d'avoir une conscience haute. L'homme conscient, l'homme de demain, découvrira, réalisera par lui-même que le libre arbitre est un aspect de la programmation planétaire de l'homme pour l'empêcher de vivre en contact avec son énergie interne. Aussitôt que l'énergie interne commence à se manifester à travers ses principes, cette conscience philosophique ou psychologique disparaît lentement. Ça crée un certain désarroi chez l'ego, mais éventuellement, il se forme une fusion. Et c'est la fusion qui est la caractéristique nominale de l'homme de la sixième race racine. Une fois que cette fusion sera installée sur la Terre chez ces hommes, et que ces hommes seront en communication télépathique éthérique, et qu'ils auront accès au courant tellurique qui sera manifesté par cet être-là que je parle à la fin du cycle, ces hommes seront absolument absorbés dans cette énergie, et ce sont ces hommes qui travailleront avec ce que vous appelez les forces de l'invisible pour créer sur la Terre une nouvelle organisation scientifique et mondiale.
Qui est cet être-là? D'où vient-il?
Cet être-là vient de la galaxie, il vient du système dans lequel nous vivons. C'est un être qui est générateur. Il est générateur. Ce n'est pas un être qui, comme dans le passé, représentait des principes planétaires. Il représente des principes totalitaires.